MIPIM 2025 en partenariat avec Envie de Ville by Nexity sur Radio Imo.
Il est 16h46, vous êtes au Palais des Festivals à Cannes, on est toujours au MIPIM 2025 et je suis toujours accompagné de Sylvain Lévy-Valency. Ça va Sylvain ?
Un excellent MIPIM, je trouve.
Ouais, ça commence bien.
On a une belle ouverture, beaucoup de... j'allais dire, pas forcément plus de monde que d'habitude.
Non, un petit peu.
Mais une meilleure concentration sur le plan des affaires.
En tout cas, on a eu, Sylvain, un début de MIPIM de qualité, avec des intervenants de qualité sur notre plateau. Et ça continue, puisque nous sommes avec Frédéric Goupil de Bouillet. Bonjour Frédéric.
Bonjour à vous.
Ravi de vous retrouver sur notre plateau. Vous êtes, on ne vous présente plus, notamment président de l'ADI, l'Association des directeurs immobiliers. C'est en cette qualité qu'on a le plaisir de vous recevoir. Frédéric, c'est quoi votre première impression de ce salon MIPIM ?
En effet, un MIPIM qui démarre bien. Bon, ça sera un MIPIM plus vieux cette année,
ouais,
un peu comme tous les 3 ans.
Bah oui.
Mais c'est donc, comme tu le disais, Sylvain, les gens sont concentrés, on se voit.
C'est vrai.
Il y a moins de monde dans les rues, entre deux averses.
C'est clair.
pour le faire. Donc on va bien voir, j'espère que demain et après-demain, il y aura toujours autant de monde. Mais c'est vrai que c'est très studieux.
Ouais. C'est quoi la grosse actualité, l'agenda de l'ADI en ce moment ?
Alors, en tout cas, sur le MIPIM, il y aura le petit déjeuner de jeudi.
Exactement.
Voilà, le traditionnel.
C'est petit le traditionnel. Déjeuner.
Oui. Voilà, et cette fois-ci, on le fait avec le MIPIM.
Il y a pas mal de monde. Hein,
et il y aura, on espère beaucoup de monde. On espère beaucoup de monde. C'est toujours l'occasion, en tout cas, pour tout le monde et les directeurs immobiliers de se retrouver. Sinon, l'actualité de l'ADI en dehors du MIPIM,
oui.
Il y a de nombreux aujourd'hui, de nombreux sujets de réflexion. Quand l'immobilier bouge, voilà. Évidemment, l'immobilier des utilisateurs bouge avec et on va en parler. Et c'est l'occasion aussi au MIPIM de tester, de voir comment le marché va réagir par rapport à nos besoins, à nous, utilisateurs.
La fonction de directeur immobilier qui a été centrale dans les projets immobiliers des entreprises pendant des années, elle a un peu évolué, elle a été externalisée sur certains projets, elle a été déléguée à d'autres fonctions dans l'entreprise. Comment est-ce que tu vois cette évolution ?
Alors, c'est vrai que l'immobilier, quand il était... je vais monter pour ceux qui ont plus de 20 ans, vont s'en souvenir. Au tout début, c'est vrai que c'était quand même un métier de niche. Et c'était un métier qui était assez concentré dans des petites mains au sein de l'entreprise et un peu, on va dire, un peu satellite par rapport au système solaire de l'entreprise.
Oui, bah oui,
c'était ça. On a vu, et l'immobilier est devenu de plus en plus central dans les réflexions stratégiques des entreprises, et c'est logique que tout le monde s'en empare,
ouais.
Et tout le monde ait une idée sur l'immobilier. Le directeur immobilier est toujours central dans la réflexion, puisque c'est le seul à l'intérieur de l'entreprise qui a cette expertise sur l'immobilier. Par contre, c'est vrai que toutes les autres fonctions, que ce soit des fonctions finances, qui ont vu le poids des actifs, le poids des assets immobiliers dans l'entreprise, que ce soit les RH avec des problèmes d'attractivité, que ce soit les directions de l'ingénierie, les directions industrielles, les directions commerciales avec l'impact de l'immobilier sur leur business, s'en préoccupent et veulent avoir leur mot à dire.
Il y a eu une professionnalisation ?
Alors, c'est très clair que les directions immobilières se sont professionnalisées.
Ouais.
C'est très clair qu'il y a une montée en compétences des directeurs immobiliers et surtout de leurs équipes. Parce qu'il y a un dialogue avec toute une filière. Un directeur immobilier, il est asset, il est project, il est property et il est facility dans beaucoup de boîtes.
Oui, c'est vrai. Hein.
Donc,
c'est vrai.
Il doit connaître, je dirais, toutes les facettes.
C'est clair.
Ça. Donc, ça doit être un chef d'orchestre qui est capable de jouer à la fois des instruments à vent, des instruments à cuivre, des instruments de percussion et ainsi de suite. Mais bon, il ne peut pas non plus être un spécialiste dans cet ensemble-là. Mais il doit pouvoir composer avec tout l'orchestre. Donc c'est ça qui fait qu'il faut qu'il soit absolument professionnel. Mais à l'intérieur de l'entreprise, les fonctions que l'on loge, que ce soit industrielle, commerciale, administrative, ainsi de suite, elles s'emparent du sujet parce que ça devient des sujets managériaux, ça devient des sujets de production. Vous vous rendez compte que une usine brûle, ok, on va perdre un asset, l'asset immobilier, mais on va surtout perdre la continuité d'activité qui est encore plus importante.
Exactement.
Donc c'est ça qui devient de plus en plus au cœur du système et que les activités, maintenant deviennent, s'emparent de ce sujet avec la direction de l'immobilier.
Sylvain ?
C'est drôle, on a l'impression que ce n'est pas le même métier.
Vraiment.
Sinon, qu'on est utilisateur ou de l'autre côté de la barrière. On a l'impression que, quand je vous écoute, je me dis, c'est vraiment un autre métier. C'est un... c'est presque un métier empirique, c'est-à-dire qu'on apprend en marchant, on apprend en cumulant de l'expérience.
Autant on peut dire qu'il y a des promoteurs du bureau, il y a des promoteurs du logement, il y a des promoteurs dans la logistique avec une gamme de produits. Un directeur immobilier n'est pas le même d'une entreprise à l'autre,
non.
Parce que ça va complètement dépendre du process de l'entreprise, de l'activité de l'entreprise. Voilà, vous êtes directeur immobilier d'une entreprise dans la défense, ça n'a rien à voir avec un directeur immobilier dans une entreprise du transport, dans une entreprise, alors encore pire, bancaire, assurance, ainsi de suite. Vous allez, on va avoir des bâtiments en commun, le bâtiment de bureau, ok, ils vont être relativement semblables, mais pas la façon dont vous allez l'aménager. Voilà, et quand vous construisez une usine automobile, vous ne construisez pas une usine de médicaments.
C'est clair.
Donc, c'est vrai que c'est assez empirique. Il faut, quand on est un directeur immobilier, la première chose qu'il faut connaître, c'est son entreprise.
Ouais.
Et comment son entreprise travaille et comment, stratégiquement, elle opère. Et après, vous adaptez votre connaissance.
Mais ça reste quand même une fonction essentielle dans l'entreprise, vous êtes d'accord?
Et de plus en plus essentielle.
Je veux dire, le directeur immobilier, c'est celui qui travaille l'outil.
Il va travailler...
L'outil réceptif, l'outil d'accompagnement.
Il va travailler le contenant. Il travaille le contenant
Exactement.
Voilà, et donc il faut adapter ce
contenant. C'est le vase qui contient la...
Qui contient l'eau et les fleurs.
Absolument.
C'est un peu une fonction qui s'est... Je vais rejoindre la discussion qu'on avait avant, mais qui s'est anoblie au fur et à mesure des années. Elle a pris de l'importance, surtout avec aussi l'évolution des modes de travail, l'évolution de la consommation des mètres carrés dans une entreprise, des usages, de la manière dont on vit le bureau, dont on appréhende le bureau. Ça fait que la direction immobilière a pris vraiment...
C'est vrai qu'en 30 ans, il y a 30 ans, être un directeur immobilier n'avait très très peu sur le marché. Vous aviez très très peu d'entreprises. Il y avait des directeurs des travaux neufs.
C'était pas attractif ou...
Non, c'est parce que l'entreprise considérait l'immobilier comme étant, je dirais, un fait acquis. Enfin, voilà, on avait de l'immobilier. Bon, on avait l'immobilier dont on avait hérité ou on avait des bureaux. Il n'y avait pas de travail sur l'immobilier. Là, on l'a vu, et c'est vrai que, par exemple, l'épisode de la pandémie a mis complètement le bureau sur le devant de la scène, puisque les entrepreneurs, les chefs d'entreprise se sont rendus compte que, comment on faisait pour remplir nos bureaux, puisque le télétravail a fait... Donc, il y a toute une réflexion sur l'immobilier, et c'est exactement la même chose. Vous l'avez eu dans la logistique, vous l'avez eu dans les lignes de commerce, et vous l'avez aujourd'hui, mais en plein dans tout ce qui est production, réindustrialisation. C'est un des sujets cœur de la DI aujourd'hui. Comment on va accompagner la réindustrialisation alors qu'on a eu pendant des années des friches industrielles à traiter? Là, maintenant, il faut les re-remplir, les reconstruire et les refaire. Tout ce mouvement-là, le directeur. Donc, il est en effet au cœur du sujet, mais quand vous êtes au cœur du sujet, vous êtes aussi au cœur des critiques, vous êtes aussi au cœur des attentes. Et donc, c'est vrai que...
Est-ce que vous n'avez pas également évolué sur le plan technique du style? Les évolutions, les innovations étaient telles que quelque part, c'est devenu véritablement un métier dans lequel, un métier dans lequel il y a vraiment un process à intégrer, et que finalement, vous êtes devenu quelque part un peu la pierre angulaire du mode de travail, de l'usage de l'espace, de l'intensité de l'usage de l'espace.
Je ne vais pas aller jusqu'à la pierre angulaire, parce que je pense que de toutes les façons, c'est le processus industriel ou commercial de l'entreprise qui est au cœur du sujet.
Oui, d'accord. Okay.
Voilà, ils sont au cœur du sujet, mais c'est clair qu'ils ne peuvent plus maintenant se concevoir sans le contenant.
C'est clair.
Et qu'il y a un travail à faire avec le contenant si on veut, par exemple, être plus attractif, si on veut gagner en sobriété, puisque maintenant, on voit l'impact.
Est-ce que vous considérez comme une fonction support?
Ah oui. C'est une fonction support. J'espère qu'on n'est pas perçu comme une fonction qu'on supporte.
C'est bien parce que ce thème de fonction support m'exaspère. J'ai passé 10 ans à la communication dans l'immobilier en entreprise et je trouve que ça a été toujours employé de manière très péjorative.
C'est pour ça que
fonction support...
Mais c'est vrai que dès qu'on dit fonction support, c'est fonction qui ne crée pas de valeur.
Oui, alors qu'en fait, c'est une fonction productive.
Elle va créer de la valeur en empêchant de gaspiller des ressources rares.
Absolument.
Et c'est ça la noblesse du directeur immobilier, c'est de faire en sorte de pouvoir loger les activités avec sobriété. Et c'est ce qui nous amène aujourd'hui à avoir une double injonction contradictoire. On nous demande d'une part de sécuriser les activités dans leurs locaux avec sobriété. Donc voilà, sécuriser avec sobriété, il faut déjà... Maintenant, on nous demande en plus d'être flexible, d'être évolutif, d'être attractif, tout en étant sobre, puisqu'on ne doit pas péjorer le résultat de l'entreprise, avec des actifs qui sont souvent chers pour le faire. Donc on a cette double injonction qui fait que le métier peut être assez schizophrénique pour un directeur immobilier.
Et quand on est directeur immobilier d'un mastodonte comme la SNCF, c'est un terrain de jeu incroyable, avec des contraintes, bien sûr.
Mais... Vous avez en effet en France pas mal de gros acteurs immobiliers insoupçonnés. Donc c'est vrai que la SNCF, on pense à la SNCF, on pense à la Poste.
Mais c'est énorme.
L'Église.
Mais qui n'est pas une seule entité.
Attendez.
Il y a beaucoup d'actifs.
Je te rappelle qu'il y a un archevêché à Paris.
Je déconne pas du tout. L'Église est un des plus gros propriétaires fonciers en France.
D'ailleurs, un grand monsieur d'immobilier a été directeur immobilier de l'archevêché, c'est Bertrand de Fesneau. Qui a travaillé sur le collège des Bernardins notamment.
Mais les autres gros industriels, comme dans l'automobile, voilà, vous avez, ils ont des millions de mètres carrés avec leurs usines, avec leur surface de vente, ainsi de suite. Vous avez des gros industriels. De toutes les façons, en France, vous avez un peu plus de 3 millions d'entreprises et pour plus d'un milliard de mètres carrés.
Et vous avez votre collègue, puisqu'on va recevoir Sophie Grimaldi dans quelques minutes, justement, qui est la patronne de SNCF Habitat. Du réseau Procivis, qui est extrêmement intéressant, justement. Quand on voit aujourd'hui les défis, je vous ai déjà posé la question, mais j'ai trouvé que la réponse était hyper intéressante et elle est un peu à contre-pied. Vous partagez cette idée qu'on est dans la frugalité de l'usage du mètre carré, que de toute façon, on ne reconnaîtra plus les gros deals qu'on a connus fut une époque, et que les consommations de mètre carré sur de la hauteur, sur une espèce d'égo urbanistique qu'on a connu, je pense notamment à la Défense, où on allait sur les étages élevés, etc. Est-ce que cette époque-là, Frédéric, elle est révolue ?
Et je pense qu'aujourd'hui, on va considérer le mètre carré construit, bâti, artificialisé, comme étant une ressource rare.
Bah oui.
Tout comme il y a des années, on considérait que l'eau n'était pas une ressource rare, que l'air n'était pas une ressource rare, je pense qu'on va rentrer dans une ère de lean management de nos mètres carrés. Parce que c'est d'abord un des grands consommateurs de carbone, c'est l'immobilier, on voit 6% pour l'immobilier tertiaire du parc. Donc il faut qu'on rentre dans un processus de raréfaction et d'usage intensif de nos mètres carrés. On ne peut plus aujourd'hui avoir une intensité d'usage de nos mètres carrés aussi basse que maintenant. Vous prenez le mètre carré de bureau aujourd'hui, dans une entreprise qui a donné 2 jours de télétravail, vous êtes à moins de 20% de taux d'usage de votre mètre carré sur la semaine.
Incroyable.
C'est problématique. Vous le comparez au logement.
C'est du gâchis.
Voilà.
C'est un gâchis de mètre carré, ça.
Voilà. Mais c'est un gâchis,
De l'espace.
Reçu Éléonore Slama, d'ailleurs, sur ce sujet du gâchis des mètres carrés, qui était très intéressant.
Mais surtout à l'instant, Frédéric, où on a 4,5 millions de Français qui attendent un logement.
Voilà,
c'est un discours difficile à entendre.
C'est un discours. Et puis, je dirais, nous, directeurs immobiliers, voilà, quand on voit nos taux de fréquentation, quand on voit nos taux d'usage de nos mètres carrés, voilà, il y a un gâchis sociétal, un gâchis économique qu'il faut pouvoir résoudre. Mais après, l'injonction, elle n'est pas facile à trouver.
Non.
Parce qu'un mètre carré de
bureau... Comment on fait pour le résoudre, alors ?
Il va falloir que toute la filière, toute la filière immobilière s'engage pour construire là où il faut, et que jusqu'à l'occupant à occuper quand il faut. Dire aujourd'hui, il faut se partager des amphithéâtres. Aujourd'hui, il faut se partager, comme on l'a fait à la belle époque, des espaces de restauration. Et pourquoi pas aussi des bureaux et ainsi de suite.
Du coup, le changement, il vient plutôt côté utilisateur que côté investisseur. Effectivement, les méga
deals... La conjonction des deux. Oui. Il faut un alignement. Il faut que d'un côté, il y ait des investisseurs qui acceptent de partager les mètres carrés dont ils sont les propriétaires, et de l'autre côté des utilisateurs qui acceptent de partager des mètres carrés avec d'autres utilisateurs. Et voilà, et c'est le principe du co-living aussi. Je veux dire, tous les Français ne sont pas ouverts aujourd'hui à faire du co-living.
C'est clair.
Petit à petit, il va falloir le faire à certains moments.
Ce qui est intéressant dans ce que vous dites, Frédéric, c'est que j'emploie souvent ce terme, mais je pense qu'il est adapté. C'est une anthropologie nouvelle urbaine qui est en train de naître. Et qui va durer, on le voit avec l'habitat intergénérationnel. Là, on lance une campagne justement pour que les personnes seniors qui ont un plus grand espace accueille des jeunes étudiants qui sont aujourd'hui en vraie galère et en souffrance de mètres carrés. Donc ça, c'est un vrai sujet. Le deuxième, c'est qu'on voit bien que les entreprises, et ça, c'est nouveau. Alors, est-ce que c'est un point de vue philanthropique ou un point de vue sociétal? Certainement, parce qu'il y a beaucoup de RSE, d'engagement sociétal sur notamment le verdissement des patrimoines, sur la prise de conscience que vous disposez, les grandes entreprises, de mètres carrés, qui est peut-être, où là on a peut-être des gisements qui seraient utiles à la société, utiles à la collectivité, en optimisant les ressources énergétiques, en rationalisant effectivement l'occupation du mètre carré.
C'est pas encore assez présent, ça.
Est-ce que justement vous sentez ce mouvement d'entreprise préoccupé?
Le premier mouvement que l'on voit aujourd'hui, c'est, et on va le voir dans le baromètre, je dirais, de l'immobilier tertiaire que la DI produit avec EY, on voit aujourd'hui qu'on continue à considérer qu'il va falloir réduire nos mètres carrés tertiaires. Donc voilà, c'est un début d'étape, on commence à réduire. Après, une fois qu'on aura atteint...
On ne reviendra pas en arrière, là,
non? Non, vous n'allez pas revenir en arrière, non. Sauf à revenir à considérer que certains salariés vont revenir sur leur télétravail, j'y crois pas. Enfin, je veux dire, c'est peut-être que d'un excès, on va revenir à la normale. Mais
revient là. Hein, ça...
Oui, mais vous...
on le sent. Hein,
ce sera jamais.
Mais zéro télétravail.
Non.
Voilà, c'est un acquis social. Maintenant.
Voilà, ça devient. Donc, on est dans une phase d'abord de réduction de mètres carrés. Après, on va aller, et ça va être l'étape suivante, parce que je veux dire, quand je vous dis 15%, 15 à 20% de taux d'usage de vos mètres carrés, vous les payez 7 jours sur 7. 24 heures. Donc vos mètres carrés, voilà, quand ils sont fermés, vous continuez à les payer. Donc si le vendredi vous avez à 25-30% de taux de remplissage, vous avez quand même loué l'ensemble du bâtiment. Donc il y a un moment où les entreprises, voilà, vont pas dépenser de l'argent inutilement. Donc d'un objectif sociétal qui est j'utilise mes mètres carrés, je ne les gaspille pas, vous avez pas loin. Quand même, le portefeuille n'est pas loin du cœur.
Ouais. On
va aller vers cette réduction.
On a une question, un thème qui revient souvent depuis ce matin, c'est la reconversion des bureaux en logement.
Oui.
Comment la fonction de direction immobilière, elle appréhende cette... et ce sera ma dernière question.
Bah, 50% des mètres carrés de bureaux en France appartiennent aux utilisateurs.
Ouais.
Donc, on est les premiers impactés. Alors, ce n'est pas dans les centres-villes, ce n'est pas à La Défense, où là, il y a beaucoup de mètres carrés qui appartiennent à des investisseurs, à des SCI, à d'autres propriétaires. Mais déjà, c'est quelque chose qui nous concerne. Et on est dans le complexe de la grande maison. J'ai une grande maison, j'utilise toutes les pièces, même si je n'en ai pas besoin.
Mais oui.
Et donc là, il faut qu'on puisse passer cette étape-là. Après, c'est pas un problème technique. On pourra les convertir. La seule chose, c'est que, est-ce que après, financièrement parlant, politiquement parlant, est-ce que tout le monde va suivre pour le faire? Et je pense que même techniquement, il y a certains bureaux qui ne seront pas convertibles. Donc il va falloir, en effet, s'attaquer à ce qu'on appelait il y a 3 ans, souvenez-vous, les friches tertiaires, potentiellement les friches tertiaires. Et on commence à les voir arriver.
Merci beaucoup Frédéric Goupil de Bouillet pour cet entretien. C'était très intéressant.
C'est toujours intéressant.
Ouais, non,
merci
bien.
À vous.
Avoir une réflexion à la fois pratique et intellectuelle sur ce métier. Ouais.
Merci beaucoup d'être venu sur notre plateau et bon salon.
Et on vous donne rendez-vous d'ailleurs pour le petit déjeuner où nous sommes.
Oui, on sera là. Nous sommes inscrits, nous serons là.
Et nous sommes inscrits, voilà, on ira ignorément. Merci en tout cas, on vous souhaite un excellent MIPIM et on se retrouve justement avec Sophie Grimaldi qui est la patronne de SNCF Habitat qui doit arriver dans quelques instants.
Allez.
MIPIM 2025 en partenariat avec Envie de Ville by Nexity sur Radio Immo.